Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto sur Campus Lille 106,6 ou campuslille.com. Au menu de cette émission, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Christophe Tillemant pour le sommaire du moto magazine du mois d'avril. Christophe, bonjour.
Bonjour l'ami.
Il semble qu'on va parler de balades en Sibérie, en Russie.
En Russie, en Mongolie, on retrouve Petit Luc, bon, dont on n'a pas beaucoup parlé ici. Je pense qu'on en avait parlé quand Luc Cottrel était venu nous parler de son voyage en Afrique. Il l'avait rencontré. D'ailleurs, il a une signature sur son réservoir, je me souviens. Alors, on retrouve Petit Luc et ça, on se sent GS parce qu'il est parti. Elle affiche quand même 200 000 km, hein, et justement, on va raconter un petit peu son parcours. Et puis, c'est le hors-série tourisme de Moto Magazine ce mois-ci, donc c'est l'occasion de faire un peu de focus sur du tourisme bien au-delà de nos frontières.
Très bien, l'autre invité de cette émission, c'est Jean-Yves Ballois de la Fédération Française des Motards en Colère. Jean-Yves, bonjour.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Moi, je pense qu'on va parler contrôle technique.
On va parler contrôle technique et manifestation, c'est la saison.
Tout de suite, on dit la date, le 16 et 17
Mobilisez-vous,
avril.
Mobilisez-vous, justement, et pour une fois, là, les motards du Nord, ils vont faire une manif sur l'île. Et pour les volontaires, on descend à Paris, histoire de gueuler un peu notre indignation.
Avec un campement sur le circuit Carole, hein, pour les gens qui viendront d'autres régions. Hein.
Exactement, on a la permission de camper sur les pelouses, alors profitons-en. Gratuitement, en plus.
Et gratuitement, voilà. L'autre invité de cette émission, c'est Daniel Torel, le vice-président de la Fédération des Backers de France, la FBF. Daniel, bonjour.
Bonjour, Lamiche.
Alors, avec toi, on va parler Assemblée Générale qui s'est déroulée il y a une semaine.
Tout à fait.
Le temps passe vite quand même.
Tout à fait.
Voilà. Et puis, une nouveauté, hein, la FBF a décidé de construire sa moto.
Tout à fait, parce que nous avons des chevaliers de la custom culture qui sont des artistes reconnus dans le monde entier. Et nous avons décidé de lancer notre propre moto. Voilà.
Vous allez avoir du pain sur la planche, là. Hein
nous.
Je pense que vous allez avoir quelqu'un de très compétent pour faire cette moto, pour construire cette moto.
Ah, tout à fait, puisqu'on fait appel à Nicolas Chauvin, qui était notre premier chevalier et constructeur, encore une fois, de niveau international, classe internationale, reconnu par tous et par toutes, pour la qualité de ses motos.
Très bien, et pour terminer ce sommaire, nous avons rendez-vous avec Christine Savary pour le deuxième numéro de Femmes et Moto, et Motard plutôt.
Voilà,
Femmes et
Motard, bonjour. Hein,
on retrouve en kiosque
depuis trois jours, voilà, le deuxième numéro.
Alors, Christine,
de Femmes et Motard.
Christine, tu vas nous dire un peu si
je vous
la
expliquer.
Tendance de ce magazine,
oui,
hein, deuxième
voilà.
numéro,
voilà.
Il faut trouver un peu de la matière aussi. Hein, pour,
ah oui, il y en a, il y en a,
facile,
je vous en donnerai quelques exemples.
Très bien, et puis à la technique, eh bien, c'est notre ami Laurent. Laurent, bonjour, et on enchaîne avec le premier morceau de musique. Small town southern Iowa, in the middle of the night. You can hear that slide guitar, blowing out the lights. Laying down that Mississippi sound, baby, steady and tight. Playing that old Delta blues, baby, till the morning light. This ain't no fool, you got to pay your dues. Only one way to do it, down home blues. I said a down home blues. Chicago, I'm gonna hear a little blues, man, I'm gonna soothe my soul. Yeah, little girl, hope you like it, and it makes you feel good. A little sun house on a reggae, put you in the mood. This ain't no fool, you got to tell the truth. Only one way to do it, down home. Sit it down. crossroads in the middle of a line. Should you stay aboard? Should you stay all night? I got yourself a good man waiting for you, honey, waiting by your side. Yeah, I'll hang on to your mama, so you better decide. This ain't no fool, you got to pay your dues. All in one way to do it, down home blues. I said down home blues, down home, down home blues. Yeah.
Spécial Olof, le magazine de la moto, c'est sur Campus, c'est tous les dimanches de midi à de 11h à 12h30. Voilà, un spécial aujourd'hui, sommaire du mois d'avril du MAG avec Christophe Tillemant.
Premier dimanche du mois, le numéro voilà. Vient de sortir, c'est le printemps, le poisson. On sort les motos, on va pour certains.
Oui, on commence à sortir les motos.
Voilà. Et on manifeste.
Bon. Oui, ah, ça c'est après alors, le mois, tout ça, avril, mai, tout ça, c'est des mois un peu...
C'est pas seulement des mois, c'est de une année à manifester.
De revendication. Ouais,
ouais. Alors, je laisse Jean-Yves en reparler, mais je viendrai l'assister parce qu'il y a quand même pas mal de pages qui sont consacrées à la manif, au contrôle technique, aux 100 chevaux, bon, voilà. Donc, alors je voudrais commencer déjà par le courrier des lecteurs. C'est toujours une rubrique intéressante à parcourir. J'interviendrai tout à l'heure sur quelqu'un qui nous parle du contrôle technique en Grèce. Parce que ça peut nous servir sur ce qui nous attend.
Il y a un contrôle technique en Grèce.
Oui.
Je suis épaté là, vraiment là.
Il y a aussi un contrôle technique. Il y a aussi un contrôle technique en Allemagne. Hein.
Oui, ça en Allemagne, je savais. Non, mais eux, ils sont très rigoureux ces gens-là.
Non.
Oui, mais en Grèce,
non.
C'est le plus intéressant au niveau des contrôles, le plus intelligent.
Oui.
Le moins pire.
On en verra plus tard.
On va reparler du contrôle technique tout à l'heure. Donc là, je vois justement l'action des marques sur les motos avec les pannes électroniques. Alors bon, vous savez tous que je roule électrique. Bah moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein,
bah non, c'est mes auditeurs, si tu veux, savent pas. Voilà, donc on vous prévient, cher auditeur, c'est que Christophe roule électrique. Bon, alors il roule électrique, ça veut dire qu'avec un scooter,
on peut pas avoir
un moteur électrique.
Qualités, hein.
Voilà.
Exactement. Bon, enfin, fait. Toujours est-il que c'est un autre Christophe, tiens, avec sa VFR de 2014. Il a été immobilisé 6 mois pour un défaut d'électronique que le concessionnaire ne trouvait pas. Donc c'est quand même...
C'est une tare, le concessionnaire, là, hein, faut dire.
Voilà, alors je peux lui donner un conseil, c'est qu'il change.
Il change quoi ? Pour un autre véhicule électrique ou... Bon, ou alors il change vraiment, quoi, pour une vraie moto.
Ceci dit,
le concessionnaire.
Ceci dit, la marque l'a quand même dépanné, mais effectivement, ça a pris du temps. Et je comprends que... Mais quand on pense les 6 mois, là, avec l'histoire des 100 chevaux, il y a des gens qui ont commandé leur machine qui est toujours bloquée. Mais on y reviendra tout à l'heure sur le sujet. Et puis aussi une photo où on voit un cul de bus avec un avertissement. 375 €, ça fait chier le bruit. Et on voit un pot d'échappement, vroom. Parce qu'à Cannes, ils préviennent. Si vous avez donc une moto qui est trop haute en niveau de décibels, 375 €, mais ils se payent une campagne d'affichage pour ça. À l'arrière des bus.
C'est un copain Estrosi. Célèbre motard d'ailleurs.
Champion du monde.
Ouais.
Alors, d'un autre côté, le bruit, c'est enfin, comment dire, c'est une forme de sécurité. Hein, le fait d'entendre une moto qui va te doubler ou qui arrive.
Pipe save life. Hein,
on en parlait avec les véhicules électriques. Là, il va y avoir un gros problème quand tout le monde roulera électrique, parce que on n'entendra plus.
Je klaxonne tout le temps, moi. Donc,
c'est pour ça que tu vas pas loin. Ça vide la batterie.
Non, mais blague à part, quand même. Bon. C'est vrai que le fait de faire c'est du bruit. Alors, bon, attends, pas non plus assourdir. Hein, la population. Mais de faire du bruit, d'entendre une moto arriver, ça permet de dire, tiens, j'ai un véhicule qui va me doubler ou qui arrive à droite ou à gauche.
Ou même les piétons.
Ça, et les piétons ça également, les avertit beaucoup, ça les avertit. Hein. On imagine après avec des tas de véhicules électriques qui ne font plus un bruit, hein, le nombre d'accidents.
Ça sera comme dans les westerns. On n'entend pas la balle qui vous tue, on n'entendra pas la moto qui vous écrase.
Ah, ou
la
voiture. Parallèle. J'ai bien le parallèle.
Bon, bah, je vois que vous êtes très branché sur le sujet. Hein. Alors, je voudrais donner encore deux informations, de petites choses que j'ai pêchées dans le journal. Une bande de jeunes là, qui a sorti donc, une application dont on reparlera tout à l'heure. Parce que finalement, quand on parlait de Petit Luc et de son voyage en Russie, il y a un peu de ça derrière. Hein. C'est une application donc, qui s'appelle donc, sur www.liberty-rider.com. qui en fait permet d'avertir à vos proches par SMS qu'il vous est arrivé quelque chose, une chute. Donc vous avez un accident.
Ah oui, j'ai vu ça quelque part.
Voilà. Vous informez le réseau qui est le vôtre. Ça permet donc sur Android ou sur iPhone de pouvoir avoir l'information.
Alors en bref, ça marche comment ? Enfin, très vite, ça marche très vite. Explique-nous un peu comment ça fonctionne, ce système.
En cas d'accident, le portable prévient automatiquement les proches par SMS.
Mais comment le portable sait que tu as eu un accident ?
Des accéléromètres dans les portables maintenant.
Ah ben alors, si t'es pas content de ton portable, parce que
si tu le jettes,
et tu balances.
Ah oui.
Alors là, t'as les proches qui sont avertis d'un. Oui, non, bon, d'accord. Oui, bon.
Alors, oui, mais ça peut sauver des vies.
Parallèle.
Un truc de flicage.
Ça peut aussi te fliquer.
On reviendra tout à l'heure avec Tiluc, mais c'est un petit peu le système qui a fonctionné de la sorte pour tout son périple en Russie, parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et donc, il a profité d'un réseau de cette sorte-là. Et puis, je voudrais dire une dernière chose concernant les radars, parce que ça, c'est une rubrique que j'aime bien, mais c'est pour vous montrer quelquefois jusqu'où va la débilité du système. Ils ont installé un radar tronçon, mais sauf qu'ils se sont rendus compte que sur le tronçon qu'ils étaient en train d'auditer, il y avait un bourg où la limitation était à 70. Eh bien, pour pouvoir faire fonctionner le radar tronçon, on a remonté la limitation de vitesse dans le bourg à 90. Parce que comme ça, sur la durée du tronçon, la vitesse
elle
est stabilisée. Voilà.
Show me the way, yeah. sleeping. Elena, wanna take your love, or won't you show me the way? Yeah, I want you show me the way. I want you day after day. I want you day after day.
Là, le magazine de la moto, c'est sur Campus, dimanche à 11h. On continue le sommaire du magazine du mois d'avril, oui. Magazine de Motomag.
Oui, alors en fait, courrier des lecteurs élargi, et j'en parle pas souvent, ça, casque d'âne, casque d'or. Alors casque d'âne, en fait, c'est des photos d'équipements un petit peu débiles. Enfin, il y en a un là, par exemple, c'est pas dans notre région, mais ils ont été mettre des plots en caoutchouc pour avertir d'un passage piéton. Donc il y a une espèce de damier, on a l'impression que c'est un jeu. Bon, casque d'âne, hein, donc ça c'est en Loire-Atlantique. Mais un casque d'or dans le Nord. À la commune de Warem. Alors, un casque d'or qui est issu d'un casque d'âne, probablement. Hein, parce que, en 2015, la commune de Warem fait installer des coussins berlinois. Vous savez, ces coussins en matière synthétique, là, je ne sais pas trop, enfin, vraiment le truc casse-gueule. Et donc, Marc Vermeulen, qui est donc militant de l'antenne FFMC 59, quelqu'un qu'on connaît bien. J'ai déjà eu l'occasion d'avoir un courrier des lecteurs de sa part concernant un casque qu'il avait réussi à se faire changer par le fabricant. Donc il était reconnaissant là-dessus. Et donc Marc habite le village. Et donc avec l'antenne FFMC 59, eh bien, il a discuté, il a montré au maire qu'il y avait des voies autres que ces solutions qui sont casse-gueule pour les motos, les motards. Et donc il a obtenu de la part du maire de revoir complètement le dispositif de ralentissement par un plateau surélevé. Avec, alors il y a une photo, évidemment, c'est pas très radiophonique, mais avant, après. Hein, voilà, casque d'âne, casque d'or. Hein.
Ce qui montre bien que quand on se mobilise, quelquefois, il y a des gens intelligents en face.
Voilà, et donc il ne désespère pas, évidemment, de continuer sa croisade anti-coussin pour arriver à faire changer les avis, les réalisations qui sont quelquefois mal placées. Voilà. Alors, dans la page régionale aussi, j'ai relevé, on en avait parlé, concernant les hivernales. Alors, bon, c'est plus tout à fait le temps des hivernales, mais ça fait plaisir de voir une hivernale
avril,
sous la neige.
Oui, oui. Alors ça, j'ai vu la photo.
Voilà. Et on en a parlé. Yannis était là, c'est la Burle.
Oui.
Donc, effectivement, c'est assez c'est séduisant pour les amateurs.
Oui. Là, c'est vrai, on va noter pour l'année prochaine.
Hein. Il fallait y être. Oui. Mais apparemment, c'est un pays où, à 1200 mètres d'altitude, ils sont presque neige garantie. Hein.
Bon, oui,
chez nous, c'est un peu plus compliqué.
Bah, je pense que Jean-Yves, qui est amateur d'hivernal, vu les photos que l'on peut voir sur le Moto Magazine du mois d'avril... On peut compter sur la neige l'année prochaine.
Voilà, et puisqu'on parle des sorties et des hommes, il y a une rubrique dont je ne parle pas trop souvent, c'est les portraits. Et ce mois-ci, c'est les portraits d'un dentiste. Alors pourquoi un dentiste, me direz-vous, qu'est-ce qu'il vient faire et justement, c'était sa réaction à l'interview de Moto Magazine. Il disait, ben, pourquoi vous intéressez à moi le mois dernier, c'était Serge Martin.
Ah oui.
Donc c'est quand même... alors effectivement, on le voit en photo dans son siège de dentiste.
Il fait peur. Déjà, il fait peur. Alors, avec l'éclairage comme ça, du haut.
Mais la niche, je sais que t'es un gros rouleur. Mais alors là,
j'aime pas le dentiste.
Lui il pète le score. Hein. 1 200 000 km à moto, c'est quand même
rien
pas
du tout. Sans accident.
Sans accident.
C'est rien du tout.
Voilà. Et donc, qui lui a valu donc, la palme d'or de la prévention routière. Et donc, il nous explique.
Alors, ce dentiste a fait 1 million de kilomètres.
1 200 000.
200 000, 1 200 000. Il n'y a pas eu le temps de soigner les dents.
Alors. Oui, oui. Alors,
si, ou elle les soigne suffisamment cher pour se payer 1 200 000 bornes.
Et c'est pas d'aujourd'hui, parce qu'en fait, bon, il a commencé à faire de la moto. Alors, ce gars-là, il a 58 ans. Il a commencé à faire de la moto en 72.
Et
il a eu la Palme d'Or en 96. Donc, depuis, il a pu en faire encore quelques-uns.
Oui, mais alors, comment on sait qu'il a fait 1 200 000?
Ah, ben ça, je me suis demandé. Ça effectivement.
À chaque fois qu'il a revendu une machine, il a fait contrôler par un huissier qu'il avait autant de kilomètres au compteur quand il l'a acheté, ils ont déduit. Comment ont-ils fait pour être sûr?
Ça, j'ai pas la réponse. Par contre, des machines, il en a eu, hein, des Yamaha, des Atlets. Il a eu une ML. Il roule en Harley, un Side Harley, une Kawa Z1000. Enfin bon. Alors, ce qui est amusant, c'est que le chroniqueur, l'intervieweur plutôt, lui demande si son métier, parce que des galles cassées, il a dû en voir passer quelques-unes. Hein, il est médecin, il est chirurgien-dentiste à Paris, hein, donc des chutes de scooter, à mon avis, il a dû en voir quelques-unes. Et il explique que non, c'est pas du tout, justement, il y a vraiment une partition entre sa pratique de la moto, où il est bien conscient qu'il est vulnérable, et puis sa pratique de son métier.
Les schizophrènes.
Probablement. Et alors, ce qui est amusant, c'est que en famille, il a absolument pas transmis son virus à ses enfants. Hein, donc, comme il dit, c'est lui, il est horizontal. C'est ses frères. Il a pratiqué beaucoup la moto avec ses frères, mais ses enfants, pour l'instant, ils s'y sont pas du tout mis. C'est pas leur truc.
Bon. Toujours c'est à lire et à voir dans Moto Magazine du mois d'avril. Hein.
Voilà.
Il y a 4 pages là-dessus.
Il y a 2 pages et 2 photos. Bon,
il y a une grosse photo.
Oui, c'est vrai. Il y a une page, c'est qu'une photo.
Il fait peur. Hein. Enfin, pour le dentiste, j'irai peut-être pas chez lui.
C'est à Paris, alors. Il y en a dans le Nord qui font moins peur.
Un dentiste qui manie la roulette et qui roule.
Elle est belle. Oui.
So I can let myself go once again. The world's as big as a man wants his world to be, his world to be. Open up my heart and let the universe take a hold of me. When I was young, my mom taught me how to walk on my own 2 feet, on the road to where I'm meant to be. When I feel myself get lower to the ground, I need familiar faces, familiar sounds, get on back to where I'm from, so I can get myself together, so I can let myself go. Once again, once again, once again.
Allez, on continue le sommaire du Moto Magazine du mois d'avril avec le coin, un gros morceau, c'est les 100 chevaux.
Hein. Ça fait partie de l'appel à la manif. Hein, donc effectivement, c'est l'occasion de faire le point parce qu'il y a eu de l'actualité ce mois-ci. Le Conseil d'État a validé sans réserve le 9 mars dernier le décret modifiant donc ce fameux article du Code de la route relatif à l'homologation des véhicules à 2 et 3 roues motorisées. Et donc, c'est la voie vers la signature du décret par les ministres. Je dis les ministres, parce qu'ils sont 4 à signer. Donc il faut déjà qu'ils se mettent d'accord, hein, que le papier...
Il faut paraître les décrets d'application.
Voilà. Et puis, l'arrêté rétrofit sans chevaux, c'est la ministre de l'Environnement qui doit le signer. Celui-là, il est en attente depuis octobre 2015.
Ah, mais c'est celui-là qui nous intéresse, le rétrofit, là. C'est celui-là qui nous intéresse, là.
Attends, c'est pas tout.
C'est un aboutissement d'un long processus, aussi.
Il y a aussi les machines aujourd'hui, les neuves, qui sont bloquées en concession.
C'est
celle-là. Et donc aujourd'hui, à la lecture de l'article et donc des situations qui sont ainsi rapportées, ainsi que l'interview du vice-président du Conseil national des professionnels de l'automobile, ça ne sera pas quelque chose qui sera avant mi-mai. Donc c'est-à-dire dans 6 semaines.
Donc signature quand même, c'est incroyable quand même.
Il faut
qu'ils apprennent à écrire.
Donc,
et à compter.
Mais
la niche,
attends, tu vas beaucoup trop vite.
Je ne sais pas, signer, il y a pour deux secondes.
Donc voilà, malheureusement, ça doit être vraiment pénible, et pour les professionnels qui se retrouvent avec des machines qui stockent, qui ne peuvent pas vendre. Hein, donc, et puis surtout, c'est maintenant qu'on roule, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. moto neuve, c'est quand même sympa de pouvoir les sortir à ce moment-ci de l'année. Voilà, donc il faudra encore patienter un mois et demi, probablement. Et donc, le contrôle technique.
Avant de commencer en général, je vais préciser les dates de rassemblement pour, si ça vous intéresse, de défendre votre futur motard. Alors, à 9h, c'est Grand Place à Lille le samedi 16. On a fait la reconnaissance lundi dernier, sous la pluie. Enfin bref, on va visiter deux contrôles techniques, c'est pas d'écra. Là, quand je dis d'écra, il faut dire d'écrapule.
D'écrapule, oui. Avant l'émission, tu nous as dit si je dis d'écra.
Il faut dire d'écrapule.
Nous devons dire d'écrapule.
Voilà, c'est ça. Je vois que le son est passé un peu en retard devant. Bon, enfin bref.
Daniel qui fait grimace.
Et à 14h, au village moto de Ronchin, pour ceux qui veulent vraiment assister et soutenir la FFMC Paris. Alors, Paris, Petite Couronne.
9h Grand Place, c'est ça ?
9h Grand Place, c'est local. C'est d'accord. Uniquement pour la et région
ça,
Nord.
Ça va durer combien de temps à peu près?
Alors,
le
ça
parcours
durera à peu
le temps
près moins de
2
heures.
Hein,
moins de 2 heures.
Moins de 2 heures, d'accord. Donc,
et après, rendez-vous à 14h, village moto de Ronchin, pour partir sur Paris.
Mais là, il faut avoir son équipement.
Et là, il faut avoir son équipement.
Il faut avoir la tente,
le couchage, voilà. Et puis à la rigueur, la carte bleue pour acheter à bouffer. Si
ou
on
partir avec le casse-croûte et tout ce qu'il faut déjà pour manger le soir, c'est ça ?
C'est ça.
Parce que ça, c'est direction le circuit Carole.
Le circuit Carole où on pourra loger gratuitement et puis le lendemain matin.
Est-ce que c'est un endroit il y a des motards de l'Est et de l'Ouest qui vont aussi se rejoindre
là ? Toute la France, toutes les FFMC locales sont conviées.
Se rejoignent là-bas au circuit Carole.
Voilà. Hein. Et puis donc, la manifestation débutera l'après-midi à Paris. Et donc, ça permet aux gens qui ne peuvent pas venir le samedi de partir le dimanche à 9h au CRT de l'Équin, rassemblement pour ceux qui ne peuvent pas venir le samedi. Donc descendre à Paris, comme ça, à 14h, au circuit Carole, on pourra commencer la manif générale.
Alors c'est surtout important pour les Parisiens, parce que cette fameuse interdiction de véhicules de rouler après 2000, enfin je ne sais plus trop là, 2004, hein, et même je pense que ça va jusqu'à 2007 maintenant.
Ça va, mais jusqu'à 2007, il parle de 2007, alors qu'il parle pour les motos de 2007, alors que pour les bagnoles, il ne parle pas, c'est 2000 simplement, donc bon. Alors donc ça c'est ce que je voulais sortir en préalable pour que tout le monde ait en tête. Et on a tous un beau-frère qui est un peu obtus sur les bords, ou beauf littéralement, disons-le. Et donc, dans les réunions familiales, ils vous opposent des arguments. Nous, on a un contrôle technique sur notre bagnole.
On va le faire comme ça.
Pourquoi t'en
apprends? Hein.
Ah, quand même.
Pourquoi t'en aurais pas dit?
Pourquoi t'en aurais pas? Alors, donc, on a préparé une fiche d'argumentaire pour lui répondre, alors avec des arguments simples qu'il est à même de comprendre.
Oui. Hein. C'est pas gagné.
C'est pas forcément gagné, mais comme il y en a beaucoup, il y en a au moins un ou deux qui comprendra.
Dans le rôle du beau-frère,
c'est qui? La musicienne.
Premier argument.
Non, je joue pas le rôle du beau-frère. Hein. Non, il n'y a pas question.
Premier argument, les deux roues motorisées sont fluides en ville et fluidifient la circulation. Normalement, avec un QI d'huître, on s'en aperçoit.
C'est la solution, c'est pas un problème.
Voilà. Donc, justement, le slogan.
Là, c'est la question que pourrait bien répondre le bof.
C'est
pas vrai, mais j'en ai pas vu que j'ai pas vu que ça fluidifie la circulation, hein.
Alors, justement, à ce moment-là, il s'est peut-être compté. Donc, tu lui donnes un chrono et puis tu lui dis que les deux roues à moteur, ils mettent 2 à 3 fois moins de temps en ville pour traverser une ville.
Et là, il va dire, mais comment tu le sais, Ti?
J'ai chronométré.
Pas du tout, ils roulent trop vite.
Bon. Alors, en plus, un truc intéressant qui l'interpellera, c'est que s'il a un deux roues à moteur devant lui, il pourra le dépasser, l'écraser, s'amuser avec, mais ça fera une bagnole de moins. Donc, il y aura moins d'encombrement.
Oula, c'est pas un argument, ça.
Il est pris dans les bouchons, s'il y avait 100 bagnoles de moins devant lui,
Il y a pas mal de motos écrasées quand même.
Ouais.
Il n'est pas obligé d'en écraser.
Non, mais est-ce qu'il serait capable?
Ouais.
Et si les accidents augmentent, c'est le contrôle technique. Alors, attention.
C'est le courrier. Alors là.
Donc, corollaire de l'affirmation précédente, en cycle urbain, un deux roues motorisé consomme 2 à 3 fois moins de carburant qu'une bagnole.
Oh là là, le bof.
Même
va dire,
si.
Attends. C'est pareil, il me dit. Comment tu le sais, Ti?
C'est parce que je paye mon essence quand je roule en ville. Donc, en plus, le stationnement, ce qui est une plaie, mais phénoménale, 4 roues motorisées près de la place d'une seule bagnole.
Donc, très bon argument, ça, Jean-Yves.
Plus il y aura de roues, de roues,
bien sûr. Plus il y aura de place pour la voiture.
Voilà. Donc, il devrait être content aussi. Bon, il y a aussi l'argument de la. On fait de la pub pour le covoiturage, mais je ne sais pas si vous avez regardé. Quand il y a deux personnes dans une bagnole, c'est déjà le miracle.
Alors, ça marche un peu.
Ouais, moi je dirais 95% des bagnoles qui sont une seule place.
C'est pas non plus.
Bon, il y a Christine qui va me taper dessus.
Ça marche un peu.
Les femmes bikeuses sont très pour le covoiturage.
Non, mais ça reste très marginal, Jean-Yves. Mais donc, lui pourrait dire non, voilà, mais je te le dis, ça marche un petit peu, ta bazar là. Donc, te dis, covoiturage.
Bon, un autre argument, c'est si tu es trop évolué pour avoir ton permis, tu prends les transports en commun. Donc s'il y a un deux roues motorisé, ça fera un usager de moins de transports en commun. C'est quand même intéressant. Autre argument pour Ségolène Royal, merde, pas de chance, il n'y a pas de deux roues motorisées diesel. Dommage.
Et pour les mecs, chercher loin pour en trouver.
Il y en a eu. Pour les mecs qui travaillent à DDE, un deux roues, ça esquinte beaucoup moins les routes qu'un camion ou une bagnole.
Oh là là,
si avec tous ces arguments-là, votre beau-frère ne se rend pas à vos arguments, changez de beau-frère.
Non, mais je rappelle, c'est pas vrai, ça.
Je les connais, tu sais, les beaufs. Il faudrait des arguments un petit peu plus, qui aient un peu plus d'impact, plus de percussion. Voilà, percutant. Bon, on peut passer un petit morceau de musique pour
Passons un morceau de musique.
Se décontracter, très bien.
Joe owns no money, got a stove roll on the back, but he's not.
Téléphone, nous avons Patrice de l'association Sécurité Info Moto. Patrice, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, tu es le président de cette association?
Oui.
Tu vous organisez, hein, je suppose que tu n'es pas tout seul dans l'association, hein, vous organisez une balade moto à but caritatif le 10 avril.
C'est exact, oui. Ouais. Ben, on est une petite association située à Saint-Quentin et effectivement, on organise pour la 6e année consécutive une balade caritative. Dans le but de récolter des fonds. Et en fait, on va demander aux participants de notre balade de participer à hauteur de 5€ par casque. Et ces fonds, en fait, qu'on va récolter, on va les redistribuer sous forme de jeux et de jouets vers une autre association qui s'occupe des enfants hospitalisés à l'hôpital de Saint-Quentin.
Ça s'appelle l'association Les Trois Ours, c'est ça?
Absolument, l'association Les Trois Ours.
Voilà. Donc c'est une balade de 190 km sur les routes de l'Aisne et de l'Oise.
Oui, tout à fait, oui. On part donc de Saint-Quentin, de l'un de nos sponsors, en fait, qui est le magasin Daffy Moto à Saint-Quentin. Et on va parcourir donc les routes de l'Aisne et de l'Oise, donc au travers. En fait, la balade va se faire en quatre parties, on va dire, avec un départ de Saint-Quentin, à 10h précises, donc de chez Daffy Moto, avec une petite pause café-pipi, on va dire, à Coucy-le-Château. Et puis un deuxième quart de parcours qui va nous emmener jusqu'au château de Pierrefonds, dans l'Oise, avec là une pause déjeuner. Et puis donc redépart de Pierrefonds à destination de Noyon avec de nouveau une pause café BP sur la route, et puis retour à Saint-Quentin, donc après 190 km environ, aux alentours de 17h.
Très bien, donc c'est une balade qui est ouverte à tous hein, et à toutes.
Tout à fait.
Toute oui, cylindrée.
C'est ouvert à tout le monde. À partir de 125 cm3, on va quand même limiter la cylindrée à 125 cm3. Et c'est vraiment ouvert effectivement à tout public, des gens qui sont motivés. Alors on a un public qui est déjà, je dirais, assez fidélisé, puisque notre petit groupe, là, notre peloton gonfle d'année en année. À titre d'exemple, l'année dernière, nous avions 350
participants, donc, c'est pas mal.
Ouais, ça fait déjà un joli convoi. Alors l'association Sécurité Infomoto que je préside assure donc la sécurité sur le parcours, donc assure la sécurité des usagers de la route lorsqu'on va les croiser ou ce qu'on va effectivement. Donc on va sécuriser en fait les autres usagers de façon à ce qu'il n'y ait pas d'incident sur le parcours qu'on a prévu.
Très bien, et puis chaque participant recevra un lot.
Oui, c'est exact. Alors bon, on met à contribution un certain nombre de sponsors et puis on essaye effectivement de fidéliser les participants à notre balade en leur remettant un petit sac souvenir avec quelques gadgets, et puis ça permet aussi de fidéliser ces participants. Et il y en a qui seront, je pense, cette année encore présents comme ils l'étaient à la toute première édition. Alors juste pour l'histoire, enfin je voulais quand même préciser pourquoi cette action. L'un des membres de notre association, qui est d'ailleurs le vice-président de l'association, a malheureusement, tragiquement perdu son fils à l'âge de 17 ans d'une longue maladie. Et il a vu en fait œuvrer l'association Les Trois Ours, c'est pour ça qu'on contribue aussi avec eux à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Donc il a vu en fait cette association s'occuper de son enfant, et puis il s'est dit en retour, ça serait quand même bien qu'on fasse quelque chose pour cette association, et en fait l'idée a germé de ça, et depuis donc, ça sera la sixième année cette année, on organise cette balade dans le but justement d'aider l'association Les Trois Ours à œuvrer auprès des enfants hospitalisés.
Est-ce qu'on peut retrouver les infos sur un site internet ?
Alors, j'ai fait en fait une petite parution de notre balade sur un site, et en fait ils éditent un calendrier chaque année, c'est l'association Kikinkout et Tupal.
Oui, voilà, donc c'est page 16 du calendrier de Kikinkout et Tupal, effectivement. Donc là, on retrouve le descriptif de la balade, hein, de tout ce qui va se passer, ouais. Et les horaires où il faut arriver hein, aussi.
Oui, oui, alors en fait, donc le départ sera, comme je disais tout à l'heure, 10 heures précises. Par contre, on invite les participants à venir un petit peu avant, déjà pour éviter que ça bouchonne un petit peu à l'arrivée lorsqu'on va leur demander leur contribution, et puis surtout aussi pour pouvoir prendre un petit déjeuner qui sera offert par nos partenaires.
Je voulais te poser la question, effectivement. Est-ce qu'il y avait le petit café avec le petit croissant avant le départ?
Ça, c'est prévu. Ouais. Ça, c'est prévu, donc avec la contribution de Buffy Moto et puis d'un autre partenaire, c'est une petite boulangerie qui s'appelle Kai, et qui donc nous aide effectivement à organiser un petit déjeuner pour que les participants ne partent pas le ventre vide s'ils sont levés un petit peu tard le dimanche pour venir à midi.
On comprend que le dimanche c'est toujours un peu dur pour se lever. Hein.
Exactement. Voilà. Enfin, on va faire en sorte que tout ça se passe dans la bonne humeur comme d'habitude, avec une organisation qu'on va essayer d'être aussi bonne que l'année dernière, aussi bonne que les années précédentes. Alors il est vrai que le convoi, comme je le disais, gonfle d'année en année. Alors bon, on est une petite association, mais on va mettre tout en œuvre, et là tous les membres de l'asso vont être sur le pont ce jour-là pour assurer donc la sécurité du convoi et la sécurité des usagers que nous allons rencontrer sur notre route.
Très bien, Patrice. Eh bien, écoute, c'est super. Hein, le 10 avril, un balade moto à but caritatif. Donc, départ 10h. Hein. Toutes les infos sur le calendrier, effectivement, c'est la page 16. Hein. Il y a même ton numéro de téléphone, hein, si on veut avoir un petit peu plus d'infos.
Ouais, hein. Tout à fait. Il y a mon numéro et celui d'autres membres de l'asso, du bureau notamment. Donc, aucun souci. Sachant aussi, à titre informatif, que l'association peut aussi organiser le déjeuner des gens qui le souhaitent. Alors, on a mis en ligne, enfin sur Facebook, ça commence à se diffuser un petit peu, mais les gens peuvent me contacter pour éventuellement l'obtenir, un petit flyer en fait, qui permet aux participants qui le désirent de s'occuper de rien, et à la pause déjeuner du midi, de venir près du véhicule qui va nous accompagner pour venir chercher son sandwich, sa boisson et son fruit. Tout ça est pris en charge et organisé par Sécurité Infomoto.
Très bien, Patrice. Ben, c'est dit, voilà, donc rendez-vous le 10 avril hein, donc, ouais. pour cette balade moto. Toutes les infos, je rappelle, sur le calendrier page 16. Et on te souhaite un bon dimanche et une bonne balade.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir. Voilà, avec Jean-Yves Ballois, on revient sur l'événement majeur du mois d'avril, cette fameuse manifestation, 16-17 avril, contre le contrôle technique, hein, que tout le monde doit savoir que...
Et à ce propos-là, il y a encore
ça,
des
ça nous pend en nez, nous les motards. Hein.
Oui, justement, c'est pour ça qu'on gueule et qu'on manifeste. Et à cette occasion, on s'aperçoit que le gouvernement nous raconte des cracks, hein, en dressant poli, pour une fois j'essaie de rester poli. Et justement, parmi les arguments qu'il avance, on va essayer de les critiquer un peu, de voir en restant très très...
C'est comme Elbeuf.
Voilà. En restant très très pondéré, quelles sont la pertinence des arguments avancés par le gouvernement. Alors le premier argument, c'est que l'Europe imposera le contrôle technique en 2022. À travers l'application d'une directive qui s'appelle 2014/45. Vous voyez, ça fait déjà mal à la gorge. Slash UE. Alors, et ça, justement, bah, c'est faux. comme on pourrait s'étonner, il est clairement indiqué que la France peut déroger à cette directive à condition de mettre en place des mesures alternatives.
Et je me souviens qu'il y a 3 ou 4 ans, c'est ce qui s'est passé. Hein.
Oui, oui. Il y a 3 ou 4 ans, d'ailleurs, c'est complètement aberrant. Il y avait un jeune loup aux dents longues qui rayait le parquet, qui s'appelait Manuel Valls, qui est rentré dans la belle carrière de ministre de l'Intérieur. Alors retenez ce nom-là de ce gars-là, parce qu'il ne fait que suivre Pasqua et Sarkozy dans la fonction, ça permet de faire des dossiers, et donc ça permet de se faire élire président plus tard. Enfin bref, donc ce gars-là a eu la bonne idée altruiste d'ouvrir à une commission aux usagers de deux-roues pour leur demander leur avis. Oh, c'est magnifique, oh, putain, c'est un vrai socialiste, ça, c'est pas possible. Et puis le problème, c'est que donc la FFMC a participé à ces commissions, elle a émis des effets défavorables, effectivement, elle a réussi à faire passer l'argumentation que ce contrôle technique servait strictement à rien, et donc la commission a suivi. Manque de chance, le petit loup, il est passé Premier ministre, alors là, la commission qu'il avait instituée, le CNSR, eh ben, il l'a supprimé pour faire un conseil interministériel. Du coup, c'est plus les usagers qui ont leur mot à dire, c'est uniquement des ministres.
Et donc la FEDE ?
Et donc la FEDE,
elle reste à la porte.
Tous les conseils, toutes les associations d'usagers, on n'en prend plus compte.
C'est terminé.
Donc bon, ça c'était une digression sur notre cher Premier ministre. Donc, qui avance aussi que le contrôle technique est un argument en faveur de la sécurité routière. Là encore, bizarrement, c'est faux, parce que l'étude MEDS de 2005, qui porte sur 1000 accidents mortels qui se sont produits dans 5 pays européens, démontre que l'état du véhicule est en cause dans 0,3% des cas attribués contre 38% de défaillances humaines. Donc, on ferait mieux d'apprendre aux gens à conduire. Ça serait beaucoup plus rentable que chercher la petite bête au 0,3%.
Ça serait plus rentable en vie humaine,
en fric aussi, en tout. Donc, alors, à ce propos-là, je vais vous parler de DECRA.
Pull.
Voilà, bravo, il y en a qui se mitent.
Le seul qui tire, c'est le biker.
Je pensais à autre chose. Mais là, c'est parce que non, Daniel, il a démarré un peu plus fort que moi.
Ben oui,
il a un gros vétuin et il a du coupe, mais je le rattrape par la suite.
Donc, une étude que Vécra a fait. Voilà, bravo.
On va dire poule aussi.
Exactement, bien, Christophe, poule.
Qui porte sur 700 accidents de roues motorisées en Allemagne, donc où il y a un contrôle technique. Donc, Dekra
poule,
il explique que près de 30% des accidents sont causés par des défaillances techniques. Alors, putain, on se dit, mais merde. Les Allemands, ils ont le TUV, ils ont des contrôles techniques, et ils ont 30% d'accidents dus à des... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le contrôle est bidonné ou ils ne savent pas leur métier ? Par contre, pour contredire cela, une assurance qui est l'assurance mutuelle des motards en France, qui regroupe 12 000 accidents, seul 1% pourrait avoir une cause technique. Et là-dedans, sont comptés les crevaisons. Le mec du contrôle technique qui va te prédire une crevaison dans X bornes, il est vachement doué, hein, moi je l'engage tout de suite.
Pas du tout, c'est un politicien.
Exactement. Autre fausse argumentation balancée par le gouvernement.
On n'en sent pas.
Ah oui. Alors
ça, c'est des trucs qu'on peut balancer au bof aussi, hein, éventuellement.
Ouais, mais là, c'est plus intellectuel. Donc,
oui, il ne va pas comprendre.
Surtout l'histoire de poule.
Donc, le contrôle technique permet de lutter contre le débridage et l'accidentalité des cyclomoteurs. Débridage à la rigueur, mais l'accidentalité des cyclomoteurs, il faut savoir que entre 2000 et 2015, les accidents de cyclomoteurs ont chuté de 68%. Alors, pourquoi on s'emmerdait à faire un contrôle technique ? D'autant plus que les contrôles techniques, il y a des cras.
Pull.
Qui veut faire passer.
Je sais plus s'il faut dire poule ou pull.
Mais il y en a beaucoup qui se rendent compte que ce serait un marché trop restreint. Il faut compter 25 000 euros pour mettre en place le matériel. Sachant qu'il y en a beaucoup qui roulent plus quand il pleut ou l'hiver.
C'est pour ça qu'il
ça faudrait... risque de ne pas être rentable.
Si, si. Rentable, parce qu'après, il faudra augmenter le prix du contrôle technique.
Oui.
Si on te le met à 30 euros, il faudra au bout de deux ans le mettre à 80 euros pour pouvoir rentabiliser le matériel qui a été acheté.
Exactement. Hein,
parce que justement, le parc est trop petit, c'est trop marginal.
C'était.
Ah, voilà. Oui. À cet égard, c'est juste intéressant de rappeler. Dans le courrier des lecteurs, un grec qui nous fait part de ce qui est arrivé en Grèce, parce qu'ils avaient besoin de thunes.
Ah, mais il faudrait savoir ce qui s'est passé en Grèce,
l'État grec. Ouais. Et bien, quand ils ont instauré le contrôle technique en 2012, le contrôle technique valait 30-35 euros. Et puis concurrence oblige, il est descendu à 10 ou 15 euros. Donc c'est l'État qui est obligé de mettre le tarif à 25 euros, parce que derrière, il y a la TVA à 23% à récupérer.
Donc. D'accord, très bien. Bon, Jean-Yves, c'est pas fini encore.
Bah non, il y a le contrôle technique.
On va faire une petite pause, session musicale. Hein,
d'accord.
Une pause musicale, comme tu veux.
Okay.
Et puis on va en prendre ça après. Bon, Jean-Yves, on va enfin en terminer avec ce contrôle technique, parce que
là,
ça commence drôlement à bien faire.
À énerver les gens.
Oui.
Donc, l'autre argument qu'il croit massue, c'est que le contrôle technique protégera le consommateur. Or, le contrôle technique de roue ne sera que visuel. Alors, bravo le mec qui arrive à voir qu'il n'y a plus de dépollution sur l'engin, que les freins sont nazes. Moralité, un truc. Si c'est pour regarder ta bécane et donner un avis technique, payer 50 euros, franchement, c'est de l'arnaque.
Alors, Daniel, il nous dit que ce serait fixé à 68 euros le contrôle.
C'est effectivement.
Il a des sources sûres.
Mais justement.
De sorciers. qu'on ne sait pas d'où elles viennent, les sources.
Ben oui, mais ça, c'est ses sources personnelles.
Il nous dit 68 euros le contrôle technique.
Moi, je peux sortir une source que tout le monde peut voir sur Internet. Le président directeur général de Decra France, il pousse à la roue pour que le contrôle technique des bagnoles, donc vous êtes tous concernés, il passe annuel.
Ah,
et pas
ah
ce
oui.
qu'il va se faire.
Ah
bah, c'est pour ça que Decra
pull. Ah là, c'était synchro.
Alors aussi, attention, parce que Daniel, qui a ses sources, nous dit aussi que Noroto serait un peu impliqué dans l'histoire de ce contrôle technique. Noroto. Donc maintenant, Decra.
Pull.
Voilà, à aller investir un peu les lieux, hein, comme les agriculteurs le font dans les grandes surfaces. Ouais, ouais. Mais il faudra aussi aller maintenant dans les centres Noroto, hein, parce que.
C'est Decra pull aussi, mais. Il va falloir
pas dire
de
Noroto, comment on va trouver quelque chose. Bon, enfin, on va faire le Rototo. Voilà. Bon, donc,
ça y est, bon, j'arrête de vous embêter avec mon contrôle 16, technique.
16-17 avril. Hein,
battez-vous, sinon moment, vous allez être bouffé.
Ah oui, voilà. Donc ça, c'est à pas louper, hein, c'est ce mois-ci. Là, c'est, donc on rappelle 9h, Grand Place.
Grand Place le samedi matin à Lille.
Ça dure 2 heures la manif. On va investir des centres d'Ecra. Mmh. Voilà. Et après, c'est direction village Ronchin.
Village Ronchin à 14h pour un départ sur Paris, ceux qui peuvent.
Circuit Carole, mais là, attention avec la tente, l'équipement, de quoi
manger et boire,
dormir,
de quoi faire la fête.
Et puis, vous faire la fête aussi samedi soir, forcément. Hein, voilà. Mmh. Et puis, et le lendemain, c'est la grande manif à Paris.
À Paris, à 14h.
Ouais, très bien. Voilà. Merci Jean-Yves.
De rien.
Daniel.
Oui.
La FBF, elle propose quoi?
Mais plein de choses. D'abord faire la fête aussi, puisque c'est.
D'accord, je rappelle la FBF, hein, Fédération des Bikers de France.
Tout à fait, Fédération des Bikers de France. Donc, tous les gens qui roulent custom, donc moto modifiée, donc par excellence moto hors la loi, bien évidemment. Donc, nous sommes aussi donc des hors la loi. Je reçois mon camarade de l'FFMC. Alors, l'FBF, elle a organisé son assemblée générale nationale cette année à Métrennes, puisque la fédération a pour vocation, non pas d'être parisianiste, mais de tourner chaque année dans chaque région, de manière à ce que l'assemblée générale retrouve tous les membres partout où ils se trouvent, donc sur 87% du territoire. Donc, c'est à Métrennes, avec à peu près 340 membres présents et délégués, où on a présenté l'activité de l'année, enfin écoulée. Et surtout les projets à venir. Parce que bien évidemment, je vous rappelle que nous sommes présents sur 400 manifestations à peu près sur l'ensemble de la France.
Dis-nous un peu ce que vous avez fait là en 2015.
Mais on a fait plein de choses. On a terminé déjà notre Dragster que vous avez pu voir par différents endroits. Notre Peterbilt qui est maintenant complètement terminé, qui va servir de suite.
C'est un camion, Peterbilt.
Oui, c'est un camion. Mais qui nous
sur les beaux-frères.
Voilà. Oui, c'est effectivement. J'avais oublié qu'on a un auditeur assidu, c'est le beau-frère.
J'ai couche.
c'est lui. Donc, notre camion Peterbilt nous sert d'hospitality, c'est-à-dire qu'on a une remorque qui est complètement préparée pour recevoir des membres animés avec des mini-concerts, présenter nos plateaux, etc. Donc ça, c'est un outil de communication et un outil aussi d'accueil et réception pour l'ensemble des membres présents et tous ceux qui veulent nous rendre visite.
Vous avez fait aussi une grosse manif à Paris, il y a eu pas mal de monde.
Alors oui, effectivement, la révision... je suis perturbé, une histoire de poule, ça nous perturbe. Donc, effectivement, le 26 octobre, nous avons fait une très très grosse manif. C'est la première fois que des bikers manifestaient dans le centre de Paris. Ça a eu un impact terrible. D'ailleurs, pas mal de membres aussi, amis de la FFMC Paris, qui sont à côté de chez nous, qui se sont joints à nous, parce que, au bout du bout, nous sommes quand même motards et roulons sur deux roues. Donc, c'est la première fois que des bikers se manifestaient de manière complètement visible, parce qu'en général, on préfère être plutôt discret. Et ça a eu un succès et pas mal de retentissement à telle enseigne qu'à l'Assemblée Générale de Métrennes, des hommes et femmes politiques, sont venus nous voir, nous rencontrer pour se dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette population qui commence à manifester ?» Donc on a rappelé quand même que les bikers roulant custom, c'est 410 000 pratiquants en France à peu près, un petit peu plus maintenant. C'est 60 000 ouvriers et spécialistes artisans travaillant dans le métier. C'est 480 millions d'euros hors taxes sur le travail de sellerie, de peinture, de transformation, d'organisation de pièces. Donc c'est pas neutre. Donc il y a un point de vue économique. Il y a aussi du développement et de la recherche avec des ingénieurs qui pensent à la moto du futur. Pourquoi pas demain avoir une moto qui ne roule plus avec un carburant quelconque, mais autre chose,
pas
pourquoi
pas
hein. Non, non, électricité, non.
De l'éthanol.
Oui, aussi.
Je viens d'acheter un kit.
Alors, pourquoi pas.
Alors, avec les arguments de la Fédération française des bikers en colère, la Fédération de la FBF, s'ils n'ont pas compris, pourtant des arguments en avance, hein.
Mais les arguments existent partout, encore une fois.
Arguments financiers, arguments de choses qui ne servent à rien, et qu'il vaut mieux prendre une autre voie, chercher sur d'autres choses.
Il faut surtout consulter les usagers.
Ben oui.
C'est là le problème. Et on n'est plus dans une démocratie, parce que c'est les hommes politiques et les crânes d'œufs technocrates qui décident.
Alors, j'aime la notion de crâne d'œuf, puisque c'est un argument que j'utilise depuis la nuit des temps. Et ce qui est quand même consternant dans notre système, c'est que nous avons des hommes politiques qui viennent nous rencontrer, qui disent « Mais effectivement, vous nous avez expliqué, on a compris le côté un peu fatuitif des lois ou des mesures sont prises, puisque visiblement, c'est fait par des gens qui ne connaissent strictement rien. »
C'est pour ça qu'ils ont du mal à signer.
Non, mais ça peut être autre chose. Il peut y avoir des problèmes physiques, physiologiques. Tenir un stylo, c'est un peu compliqué.
Parkinson,
voilà, exactement. Exactement, surtout quand on apprend que Valls a fait sa grosse commission avec la...
Oh bah alors, monsieur Valls.
Voilà, donc, effectivement, on peut être choqué. Mais est-ce qu'un jour, quelqu'un d'à peu près sensé pourra se dire « Mais quelqu'un qui transforme sa moto, c'est pour quoi faire ?» Pour jouer à la roue de truce ou pour optimiser sa sécurité ou son utilisation et son utilisation. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, j'ai vu autour de moi des tas de gens qui roulent depuis la nuit des temps. On a tous bidouillé nos machines, etc. Mais c'était pas pour se mettre la gueule par terre, certainement pas. Mais visiblement.
Au contraire, parce qu'à partir du moment où on a passé une centaine d'heures dessus, on a encore moins envie de la foutre par terre. Parce qu'on sait que c'est nous qui devrons la refaire.
Vous êtes en première ligne alors pour les gens du custom là.
Ah ben nous sommes.
Moi, je reviens sur la discussion avec Nicolas Chauvin qu'on a eu à Bécancour.
Nicolas Chauvin par exemple représente une catégorie de constructeurs à part entière reconnue dans le monde entier. Partout, globalement hors France, il peut vendre ses productions. En France, c'est impossible. Par contre, il paye ses impôts, ses taxes, etc., etc. Mais les motos qu'il monte, c'est avec des produits qu'il achète en France qui sont importés. Donc on les importe. L'État français touche sa dîme, donc ses taxes, etc., etc., etc. Ne regarde pas sur l'homologation, etc. Ils savent très bien à quoi ça va servir, mais ils importent. Par contre, une fois que c'est monté, on dit aux fabricants, attention, tu peux pas vendre en France. Donc c'est aussi ce genre de, comment dire, d'absurdité, mais bon, il y en a bien d'autres. Mais voilà, ce sont des gens qui vivent de leur passion, qui sont reconnus dans le monde entier pour la qualité de leurs travaux. Et on leur dit, écoutez les cocos, vous avez payé vos taxes, vos impôts, vos charges. Oui, mais maintenant, vous ne vendez plus parce qu'on vous aligne. Et voilà, il y a aussi, on parlait tout à l'heure de schizophrénie, mais effectivement, nos hommes politiques, ou tout au moins nos technocrates, sont complètement schizos. Parce qu'on a de l'excellence reconnue par tous, mais... Vous achetez, vous fabriquez en France, mais vous ne vendez pas, attention, sinon ça coûte cher.
Voilà, et d'autant plus que c'est vrai que quand on regarde la custom, c'est pas. À la limite, on pourrait craindre pour la puissance, les moteurs qui sont à 150 chevaux, 160 chevaux. D'ailleurs, bon, ça va aller vite. Pour piloter ces machines, il faut avoir de l'expérience. Qu'un custom, généralement, c'est le but n'est pas d'aller forcément très très vite, mais à la limite d'avoir beaucoup de puissance au démarrage. Mais c'est tout. Après, une fois que tu as l'éclairage, ton freinage et puis ta plaque d'immatriculation.
What else, comme disait notre ami Georges. What else? Mais c'est un petit, voilà, c'est ce côté un petit peu étonnant. Quand on regarde un petit peu la population du custom, c'est des gens qui ont à peu près, enfin, un CSP, CSP+, 45 ans, avec pas mal d'années de conduite moto sur tous les niveaux, et qui ont envie de se faire plaisir avec une moto qui leur ressemble. ils n'ont pas envie de se foutre la gueule par terre ou d'être grand handicapé dans le meilleur des cas, mais ils ont envie de se faire plaisir avec quelque chose qui leur ressemble, qu'ils ont fait, qu'ils ont imaginé, voilà. Et la passion, c'est pas rouler à 200 km/h parce que d'abord c'est stérile, d'abord le réseau routier est tellement pitoyable que c'est éminemment dangereux, parce que ça, on est là sur le contrôle technique, on est sur des tas de choses. Par contre, je rejoins un petit peu ce que le camarade de la FFMC disait tout à l'heure, la majeure partie des accidents mortels se situe sur le réseau secondaire parce que c'est une catastrophe. On arrive au printemps, enfin nous sommes au printemps d'ailleurs, on va revoir refleurir donc les gravillons pour boucher tous les trous. Bien sûr, il y aura un panneau qui sera posé, on ne sait trop où, mais on dira, mais on vous avait prévenu qu'il y avait des gravillons, mais on ne fera rien. On va voir les ornières de boue un peu partout, et là on continue. Mais ça c'est normal, on trouve ça normal. Donc, plutôt qu'avoir des lois liberticides qui sont pondues par on ne sait qui, on voudrait que, enfin, effectivement, que les gens qui consomment, qui utilisent, puissent donner leur avis, parce que ce sont les premiers, je dirais, concernés et qui ont un minimum d'expérience.
Très bien, Daniel. C'est tout ce qu'on avait à dire pour 2016.
Oh ben, il y a beaucoup de choses à dire, mais on fait ça.
Parce que quand tu parles, on a du mal à se couper. Hein,
mais ça. On fait ça au fil de l'eau. Mais
on a tous du mal à être coupé. De toute façon.
Mais
toi le premier.
Mais voilà, c'est ça. Mais honnêtement, on est grand fan des poules. Moi, je vous le dis. Mais ça, c'est de l'anglais. Hein.
On va se décontracter les oreilles avec un petit morceau de musique, Dan.
He always said, son, you gotta be alright.
Ça, Daniel ?
Oui.
C'est pas du bicylindre ?
Non, pas vraiment, non.
On n'a pas parlé de cette moto hein, de la IFBF.
Oui, effectivement. Effectivement. Donc, scoop hein, pour nos amis et auditeurs de Quincou, c'est que bah, la IFBF va faire construire sa propre moto par Nicolas Chauvin, qui sera un custom show roulant. Et donc, présent aussi.
Donc, c'est une bête de concours, si je comprends.
Une bête de concours qui sera présente sur toutes manifestations et à la fin de saison. Sera mise en tombola et un des membres de la fédération gagnera cette moto.
Bah, je vais devenir membre à l'heure de.
Mais le but c'est ça, quoi, c'est de se faire plaisir.
Très bien, Daniel, tu sais que les femmes ont leur magazine maintenant, leur magazine moto.
Ouais.
C'est comment ça s'appelle ?
Oh, écoute, je sais pas.
Comment ça pourrait s'appeler, tiens, un magazine moto consacré pour les femmes ?
Oh, les
vous vois venir,
comment
là.
Ça pourrait.
Les femmes bikeuses, les Amazones.
Ah, toi, c'est toujours bikeuse, hein. Toi, prononce à l'anglaise. Hein.
Non, nous, on va le faire à la française. Ouais. Les femmes et motardes.
Les femmes et motardes, c'est pas mal. C'est pas mal, je trouve ça très bien.
Est-ce que tu savais, est-ce que tu étais au courant qu'il y avait un magazine maintenant qui sort, c'est le numéro 2 hein.
Voilà, c'est le numéro 2, donc c'est une revue trimestrielle. Et voilà, donc
J'aime beaucoup le mannequin photoshopé.
On va poser la question, déjà en première page, il y a une superbe, très jolie femme, hein, le visage d'une jolie femme. Hein.
Tout à fait.
Hein,
souriante,
on dirait elle, la magazine. Moi je trouve que ça fait très...
Oui, il faut laisser le temps que ça évolue.
Elle est très girly.
Oui, non mais bon, voilà. Elle est mignonne. Voilà. Ouais. Donc je vous disais, donc Femmes et Motards, une revue trimestrielle, donc qui à la sortie de son premier numéro, eh bien elle a fait réagir de nombreuses lectrices puisque de nombreux messages sont parvenus à la rédaction, des réactions plutôt positives dans l'ensemble. Hein, donc la rédaction en a sélectionné quelques-unes qu'on retrouve donc dans les premières pages. Voilà, donc comme Anaïs qui nous dit que il faut lutter contre les idées reçues et encourager les femmes, par exemple. Donc dans ce magazine, bien des news. Dans les news, on retrouve notre motarde Zoé, qui nous a envoyé une petite carte du Vietnam, qu'elle sillonne sur une Honda Twin adaptée à la piste et au road trip. Et aussi une Française, Stéphanie Buisson, qui a été sélectionnée pour participer au GS Trophy en Thaïlande. Donc là, des gros bras hein, quand même. Eh bien, ensuite, vous allez donc découvrir l'interview de Céline Géraud. Messieurs, vous connaissez Céline Géraud
qui connaît Céline
Voilà, tout à fait, mais aussi...
Une ancienne collègue de judo du temps où je faisais un peu de compétition.
Et tout où à ça, fait. Sur Paris.
J'étais à Orléans-la-Source.
Ah d'accord.
Chez Guy Delvin.
Tu sais ce qu'elle fait maintenant ?
Elle est rédactrice chef du magazine des sports sur Antenne 2, je crois.
Voilà, ouais, journaliste Daniel. Présentatrice de Stade 2, donc passionnée de sport.
Bah, on revient à TV. Alors, Daniel ne savait pas qu'il y avait un magazine consacré aux femmes motardes et par contre il connaît les quatre pages consacrées donc à cette dame.
Donc voilà, donc passionnée de sport, mais en lisant son article et on comprend très vite pourquoi elle est plutôt une adepte de scooter depuis plus de 20 ans. Donc à lire.
C'est un peu moins bien, mais bon.
Mais c'est un magazine où est-ce qu'on parle à la fois de scooter et de moto.
C'était dit à Daniel, écoute, elle est plutôt... elle aime les Harley Davidson, les Indians.
Elle est mignonne, hein, regardez.
Non, mais elle est effectivement...
C'est retapé aussi. Hein,
non, la photo, bien faite, Photoshop fait des miracles, mais c'est une jolie jeune fille.
Non, mais elle parle, quand elle présente MotoGP, elle est vraiment excellente.
Ah, voilà, parce que tu regardes MotoGP, Christine.
Eh oui, je regarde MotoGP, moi. Voilà. Donc, messieurs, vous pourrez lire aussi un décryptage sur les clichés sexistes. Mais qui ont la vidéo,
pas.
La preuve.
On parlait de poule tout à l'heure, mais c'était de l'anglais. On parlait d'équipe quand on
ça
disait poule.
Ça n'existe pas, c'est vous qui vous avez ça à la tête.
Alors, du sexe symbole à l'Amazone, l'image de la femme à moto serait-elle en voie d'émancipation ? Et pour ça, le magazine propose un défi coaching pour celles qui ne roulent pas encore en moto, en deux roues, on va dire. Un article intitulé « 6 semaines pour passer aux deux roues motorisées ». Donc, de l'inscription à une formation, au choix du deux roues, scooter ou moto, l'équipement et enfin, les derniers conseils pour le jour J. Des essais au féminin, oui messieurs, il y a des femmes qui font des essais moto. Lydia, qui a roulé sur une semaine au guidon d'une Africa Twin en version DCT, son avis, moto facile à vivre au quotidien, agile sur la route et ludique en tout terrain, cette machine donne des envies d'évasion. Elle a aussi roulé sur une Bugatti 460 de Scramble à Barcelone, une moto attachante, joueuse et fun qui s'avère être une excellente complice en zone urbaine comme en race campagne. Et un peu d'adrénaline par un essai sur une Yamaha XSR 900 Faster 100. Le point fort, c'est son moteur 3 cylindres 215 chevaux. Cet XSR a un caractère joueur et agressif, donc nécessité d'un minimum d'expérience et de vigilance. Donc, oui messieurs, 4 minutes, mais j'ai mon droit de parole, alors je vais continuer.
Mais en temps normal,
c'est vachement technique, j'y comprends rien.
Eh ben voilà, écoute, je t'invite à le lire, hein, la miche. Hein. Donc, bien sûr qu'on retrouve dans ce magazine de la mode, présenté par des vrais motards, mais des jolies motardes, de la beauté pour tester quelques produits pour garder la douceur de d'autres jolies peaux, et un moment pour prendre soin de soi à travers un article sur ce qu'on peut apporter, ce que peut apporter le yoga pour la femme motarde, accompagné de quelques exercices de renforcement musculaire nécessaires pour bien tenir cette moto et bien la conduire. Donc je vous invite à découvrir ce deuxième numéro que vous trouverez en kiosque dès maintenant. Alors, encore une fois, j'ai eu du mal à le trouver. Je pensais qu'il était avec tous les revues moto. Et non, il était avec les revues féminines. Voilà. Donc ça, c'est l'éditeur qui demande ça. Et vraiment, j'ai vraiment eu du mal à le trouver. Donc voilà.
C'est très sexiste.
Bon. Bah oui, parce que voilà, tu nous dis de lire les articles, mais ouais, je me vois pas aller dans le rayon femmes.
C'est pas les mecs, ils vont pas aller dans les rayons.
Non, mais j'espère que ça va changer. Ouais. Parce que je trouve qu'il serait plus dans le secteur motard. Et c'est là que j'ai envie d'aller le voir.
Pourquoi ils ne vont pas dans les rayons féminins et dans les rayons motards? Ils partagent le truc.
C'est un petit magazine, là, ils nous écoutent.
Mais l'éditeur m'a dit... Voilà.
Bon, donc à acheter pour les femmes qui veulent savoir un peu...
Les hommes qui s'intéressent aux femmes.
Pour les hommes qui s'intéressent aux femmes, qui s'intéressent aux motos.
Un deuxième numéro qui est très, très intéressant agréable à lire.
À suivre, voilà. On finit cette émission avec notre balade de Petit Luc.
Oui, alors Petit Luc, j'en parlais tout à l'heure, effectivement, qui a parcouru en long, en large et en travers les routes d'Afrique, et puis là, qui est allé tâter du pneu sur le territoire russe pour nous faire partager son expérience. Alors, je disais, il roule toujours avec sa 100 R100GS, qui a maintenant 24 ou 25 ans, plus de 200 000 km. Et donc, on se demande d'ailleurs à lire son papier, là, s'il n'a pas fait exprès de partir avec cette machine pour tester la solidarité motarde en Russie.
C'est ça.
Et alors c'est assez bluffant.
C'est pas un test mécanique, sinon c'est un test de solidarité.
Alors, il est allé donc au bout du bout, hein, puisqu'il est arrivé en Mongolie. Bon, je vous passe les détails, panne d'alternateur. Alors, il a fait appel à Vitaly, le comparse de l'écrivain Sylvain Tesson, qu'on a déjà eu l'occasion de présenter, enfin, pour son ouvrage, justement, pour sa traversée de la Russie en Oural. Et donc, Vitaly, à 1800 km de là, dans son réseau, il lui a trouvé quelqu'un pour l'héberger. Il a trouvé, donc, parce que dans toutes les villes, il y a des clubs motards, et les clubs motards ont leur local. Et donc, c'est un petit peu... l'oasis, le refuge, enfin bon, la sécurité, et aussi l'attente. C'est ce qui lui est arrivé. Il a attendu. Il avait une paire de mécanos qui s'intéressaient à sa moto, qui lui ont retapé, qui lui a permis de continuer son voyage. Donc, bon, je vous passe la traversée de la Russie, l'arrivée en Mongolie, le Tadjikistan, le Kirghménistan, et puis paf! Là, c'est carrément l'embrayage qui explose. La moto ne veut plus rien savoir. Donc, il est en rade. Eh bien, la solidarité motarde, ce n'est pas un vain mot. Ça a fonctionné. Alors, il fallait quand même qu'il revienne à 700 km de là, en Russie. Mais donc, son parcours s'arrête là. Il a réussi à trouver un camion d'on ne sait où, à mettre la moto dedans, à arriver à la frontière. Et il est pris en charge par ce réseau. Donc vous découvrirez ça, c'est vraiment impressionnant. Vous avez l'impression de pouvoir traverser tout le pays sans risquer de vous retrouver en rade, à vous dire « merde, j'ai pas la pièce ».
Si, c'est moins dangereux que la France, finalement. Alors, parce qu'en France, maintenant, on commence à avoir peur.
Alors, il conclut, et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est nos assistances 24-24, avec les compagnies d'assurance qui nous ont fait
le marché, ça coûte cher.
Voilà. Bon, voilà, l'émission se termine. Bon, tout ça, c'est dans Motomag, hein, Motomagazine de bois d'avril.
Voilà, bah, du coup, je n'ai pas parlé des machines, mais enfin, Christine a parlé de l'Africa Twin.
C'est édition FMC.
C'est effectivement la tête de couverture, voilà, ouais, l'Africa Twin, ouais, qui a vraiment tapé dans l'œil.
Comme
aussi,
quoi, on est complémentaires.
Aux essayeurs. Voilà.
Très bien, messieurs, Daniel, merci d'être venu aujourd'hui, dimanche 3 avril. On se retrouve le mois prochain, premier week-end, hein, toujours, premier dimanche. Voilà. Merci Christophe.
Bah écoute,
pour ce sommaire du mag.
On se retrouve dans un mois.
Voilà, Jean-Yves, merci.
Et donc, le mot de la fin, des crapules
ou des crapauds, des machins. Et on n'oublie pas, 16-17, hein, attention, la grande, 16-17, grande manif grande contre manif. Le contrôle technique, hein, on n'oublie pas. Alors Christine, alors là,
bravo.
Bah écoutez,
exceptionnel.
rayonnante.
J'en ai profité, puisque j'avais le droit à la parole, là, cette fois-ci.
Voilà.
C'est une réflexion sexiste.
C'est pas grave.
Passez un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.